prendre en considération pour chaque conclusion proposée. Cela se voit d'après ce qui précède. Comment nous réduirons les déductions aux figures qui ont été exposées précédemment? C'est ce qu'il faudrait dire après cela, car c'est là ce qu'il nous reste encore à examiner. Car, et on répète les trois en même moment, si nous pouvons à la fois connaître théoriquement la façon dont se produisent les déductions, et deuxièmement avoir la capacité d'en trouver, et en outre analyser les déductions existantes dans les figures que nous avons énumérées, nous aurons achevé notre programme initial. Donc ça, c'est vraiment beau. On n'a pas toujours la chance d'avoir des textes aussi clairs et structurants dans les traités d'Aristote. Ça correspond exactement aux trois étapes, au moins du livre 1. Les chapitres 1 à 26 énumèrent ce qu'on peut appeler les éléments de la démonstration. Donc il s'agit de ce qu'on appelle alors la syllogistique d'Aristote. En général, quand les gens parlent des premiers analytiques, ils ont tendance à se limiter à ces chapitres-là, donc dans lesquels sont constitués et validés ce qu'on appelle, disons, les 14 modes concluants. La deuxième étape correspond au chapitre 27 à 31. C'est ce que les anciens manuscrits grecs et latins appellent l'invention du moyen terme, la découverte du moyen terme, inventio medii. Et j'aime bien cette désignation parce qu'elle est imagée, donc elle reste mieux en mémoire, par le terme de pontosan. Et enfin, donc, la troisième étape consiste à montrer comment, à la limite, toutes les formes d'inférence sérieuse, bien constituée, effectivement concluante, peuvent se ramener à ce qui a été exposé dans la première et, dans une certaine mesure, la seconde partie. Autrement dit, pour résumer déjà ce programme, c'est la première chose à bien voir, les analytiques sont analytiques. L'objet des analytiques, la démarche analytique pour Aristote, c'est une démarche régressive. C'est une démarche qui va des conclusions vers les prémices. Et ça, c'est intéressant parce que ça recoupe exactement l'objet que Jacques Braunschweig, dans sa magnifique préface à son édition et traduction commentée des topiques, définit comme le but des topiques. Qu'est-ce qu'un lieu, demande Jacques Braunschweig? C'est une machine à produire des prémices à partir d'une conclusion donnée. Donc les analytiques, notamment les premiers analytiques, reprennent ce programme. Alors, pourquoi? Pourquoi deux fois? Il y a une différence énorme dans la manière dont c'est fait. Les topiques travaillent à partir d'une sorte de sémantique très générale. À partir de certains caractères des prédicats, on peut, et donc notamment du prédicat qui est le prédicat de la conclusion cherchée, autrement dit, en réalité, la propriété qu'on essaie de démontrer, on peut tenter de découvrir les prémices correspondantes. Pour bien comprendre, il faut comprendre que ce sont des propriétés du prédicat, non pas en tant que le prédicat qu'il est, c'est-à-dire les propriétés du réel auquel ce prédicat réfère, mais les propriétés du prédicat en tant que prédicat. C'est ce qu'on trouve dans les catégories, en réalité, qui sont un traité préparatoire au topique. Par exemple, certains prédicats admettent des degrés. Bon, avec ces prédicats-là, vous allez pouvoir faire, par exemple, des arguments a fortiori. Les arguments a fortiori, a contrario, dans notre rhétorique un peu rudimentaire, tellement on a perdu par rapport aux anciens du Moyen-Âge et la Renaissance, c'est un peu tout ce qui reste des lieux aristotéliciens. Donc, si un prédicat admet un contraire, on pourra éventuellement construire des arguments à contrario. Voilà à peu près ce que c'est que les topiques, c'est-à-dire une sémantique très très générale, mais la base reste quand même sémantique. on aboutit à produire quelque chose en comptant approximativement, disons, comme 300 lieues, d'après l'édition de Braunschweig, alors que les analytiques travaillent finalement avec 3 figures et 14 modes concluants, et ces 3 figures étant même toutes les 3 des variantes d'une cellule élémentaire. Ça, c'est le progrès considérable qui est réalisé par les analytiques. Et alors, à partir de là, les analytiques défendent une thèse que Robin Smith, par exemple, dans son introduction à sa traduction anglaise des premiers analytiques, définit très clairement, dit la thèse, c'est de montrer que tout syllogisme est un syllogisme. C'est-à-dire que toute déduction effective obéit effectivement à ce modèle. Ce qui, loin d'être une tautologie, est une affirmation audacieuse et même, en fait, excessive. Mais pas si excessive que ça, et c'est ça qui est quand même intéressant. Donc la troisième partie des premiers analytiques consiste à montrer, notamment au livre 1, comment on peut traduire des arguments énoncés en langage naturel dans le vocabulaire des figures de la première partie. Bon, je pense que tout ça est connu. La question est un peu moins claire de savoir ce qu'il y a dans le livre 2. En m'appuyant sur le fait qu'il n'y a pas d'autres grands passages programmatiques et d'autres transitions, dans le plan général que j'ai donné dans l'édition Garnier-Flammarion, je fais aller bravement cette troisième partie jusqu'à la fin du livre 2 et même jusqu'aux secondes analytiques. Ce qui, en un sens, est légitime. Parce qu'en effet, par exemple, la fin du livre 2, ses caractéristiques, Aristote étudie l'induction, l'objection, l'exemple, les antimèmes, c'est-à-dire les raisonnements à partir de signes. Il s'agit en effet de montrer comment on peut les analyser au moyen de nos figures, célèbres au chapitre 2, 23 par exemple, qui montre comment on peut reconstruire l'induction comme une déduction, tout à fait caractéristique. Et on peut dire en un sens qu'après avoir fait une syllogistique, une analytique pardon, de la rhétorique, Aristote peut faire une analytique de la rhétorique. Malgré tout, je crois quand même, d'une part, que il y a des indices littéraires de l'autonomie de composition, de conception des secondes analytiques. Il n'est même pas tout à fait impossible, comme le dit Smith, mais j'ai un peu de mal à croire quand même, que les seconds aient été rédigés avant les premiers. En tout cas, s'ils ont été rédigés avant les premiers, ils présupposent un corpus qui est celui des premiers. Mm-hmm. Tout ce qu'on peut dire, c'est que peut-être on a une version plus up-to-date des premiers que des seconds. Ce n'est pas impossible. Mais quand même, les seconds sont relativement autonomes. Alors tout le monde a aussi le plan des seconds en tête. Hein. Je fais très très vite. Secondes analytiques, tout le début du livre 1, c'est la définition canonique de la science hypothético-déductive. La suite du livre 1 contient des choses extrêmement intéressantes, dont je reparlerai tout à l'heure, notamment sur ce que c'est qu'une démonstration complète, et au fond les qualités de différents types de démonstrations les unes par rapport aux autres. C'est là qu'il y a l'idée que la démonstration directe est meilleure que l'indirecte, que la démonstration qui a le moyen terme le plus universel est meilleure que celle qui a un moyen terme moins universel, il y a des choses intéressantes. Puis le livre 2, qui est constitué de deux grands motifs qui s'entrecroisent un tout petit peu. Première partie, la définition, chapitre 1 à 10 plus chapitre 13. Je ne sais pas pourquoi il y a ce léger recouvrement. Et à partir du chapitre 11 et 12 plus les chapitres 14 à 18, c'est, disons, une analyse de l'explication causale du point de vue de la démonstration. Ce n'est pas une théorie des causes comme dans la physique 2, c'est une analyse de l'explication causale du point de vue de la démonstration. Ça, il faut l'avoir en tête. Excusez-moi, je reviens à mon livre 2. Alors, le livre 2, comme je disais, est encore plus ignoré que le Pontosan et la troisième partie du livre 1, et je pense que c'est vraiment une erreur, et je pense que, notamment vis-à-vis de vos préoccupations, c'est un livre passionnant. Symptômes caractéristiques, les deux dernières traductions commentées qui ont été faites par des collègues allemands, celle de Ebert et Nordmann et récemment celle de Gisela Stricker en anglais dans la Clarendon d'Aristote, ne contiennent que le livre 1. Et quand on lit le livre 2 chez Smith, on voit qu'il le fait un peu par acquis de conscience, et je dois dire que j'ai fait un peu la même chose. Mais je pense qu'il y a des choses tout à fait passionnantes sur lesquelles j'essaierai de venir dans ma dernière partie. Ce sera la dernière partie avec le temps d'aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel ici. Pas trop de questions là-dessus. Personne ne dit j'ai pas compris. Bon. J'ai réfléchi après avoir rendu l'exemplier que mon projet contient en réalité deux choses pas tout à fait homogènes, bien que coordonnées entre elles, et que l'élément qui est un peu extérieur, que j'avais mis d'ailleurs pour cette raison en point numéro 5, c'est le pont aux âmes, dans l'action du moniteur. J'expliquerai pourquoi, à mon avis, c'est un petit peu extérieur. Et notamment, c'est pas vraiment un cas de ce que j'appellerais ici figuration. Mais en même temps, je trouverais dommage de ne pas avoir, surtout après ce que vous venez de dire, de ne pas avoir un peu, de ne pas m'être un peu arrêté quand même sur cet objet qui est un objet merveilleux et combinatoire. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ça bien par cœur. Je le décris très vite et puis je donnerai les détails si ce n'est pas suffisamment clair. Aristote dit, pour trouver un moyen terme pour n'importe quelle déduction, on prend d'un côté le prédicat de la conclusion cherchée. Il l'appelle A dans son tableau. Vous aurez le tableau dans deux versions, en figure 11 et 12, dans la dernière page de mon exemplier, la dernière page, la page 6. Et on prend d'autre part le sujet de la conclusion recherchée, qui est E, et pour chacun de ces trois termes, on fait idéalement trois listes. La liste de tous les termes qui sont impliqués par le terme A ou E. Hepetai en grec, c'est-à-dire, disons pour commencer, ce dont le concept est impliqué dans la définition de A. C'est provisoire. On fait une deuxième liste, qui est la liste symétrique des termes qui impliquent A, c'est-à-dire qui sont tels que A est, que le concept A est impliqué dans leur définition. Pour les connaisseurs des secondes analytiques, c'est les sumbebe kota katota, c'est les accidents par soi du livre 1 des secondes analytiques. Et enfin, on fait une troisième liste des éléments qui ne peuvent pas être le cas pour A. Et si on a ces trois listes pour A et qu'on a les trois listes pour E, il suffit de chercher quels sont les termes qui appartiennent à la fois à une liste de A et à une liste de E. Et Aristote énumère les combinaisons, c'est-à-dire que j'appellerais volontiers les conjugaisons d'une liste A avec une liste E, qui donne lieu à une déduction selon l'un des modes énoncés dans la première partie. Il y a 9 conjugaisons théoriquement possibles, puisque A peut être E, puisque B peut être couplé avec FGH, C avec FGH et D avec FGH. Aristote montre qu'il y en a 3, BF, CH et DH, pour lesquels il n'y a pas de conclusion, et donne pour toutes les autres la forme syllogistique qu'on peut obtenir en prenant comme moyen terme un terme contenu à la fois dans la liste, par exemple, B et dans la liste G, mettons. Et il montre même que tous les moyens termes ainsi déterminée donne lieu à une forme déductive concluante, et que les moyens termes ainsi déterminés permettent d'avoir toutes les formes déductives concluantes. C'est extraordinaire. Deux remarques pour commenter ça. D'une part, si on regarde de près, on voit que ça ne donne en fait que des conclusions universelles. Mais ce n'est pas grave, parce qu'une fois qu'on a les conclusions universelles, on peut se procurer aussi les conclusions des conclusions particulières, soit par subalternation, soit par négation de l'universel, conversion d'une universelle. Si j'ai une conclusion universelle et que, affirmative et que je la convertis, j'obtiens une particulière affirmative. Moyennant quoi, on retrouve tous les mots. Alors c'est merveilleux, parce que si on avait ces listes, si on les avait pour tout, on saurait tout. Évidemment, on ne les a pas. Mais il faut bien comprendre que dans la perspective d'Aristote, d'une part, le nombre des objets connaissables dans l'univers est, pour moi, probablement fini. Il est fini parce que l'univers est fini, qu'il se découpe en objets finis qui sont des individualités, et parce que ces objets ont des propriétés en nombre fini qui correspondent en plus aux capacités sensorielles de l'être humain, c'est-à-dire que nos perceptions nous donnent les choses comme elles sont. Donc finalement, les listes B, C, F, G, elles sont potentiellement possibles, au moins pour un certain nombre d'objets, et elles ne sont pas forcément d'une longueur immense. Les concepts impliqués dans la définition de l'homme ou dans la définition du pentagone, des polyèdres réguliers, ne sont pas en nombre illimité. Je reconnais que les listes D et H, c'est-à-dire les listes de termes incompatibles avec un terme donné, peuvent être beaucoup plus grandes. Mais si on regarde de près le texte inaugural que j'ai donné sous le nom T10, on voit qu'en même temps Aristote élargit et donc complique les choses. Au début, vous allez reconnaître ce que je viens de dire sous une forme plus littéraire, plus écrite. Pour se procurer les prémices qui concernent chaque terme, il faut présenter les données de la façon suivante, en posant d'abord la chose elle-même, ses définitions et tout ce qui lui est propre. Puis après cela, tout ce qui est impliqué par cette chose, ossa hepetaito pragmati, et encore tout ce qui l'implique, et tout ce qui ne peut pas être le cas pour elle. Ce pourquoi elle ne peut pas être le cas n'est pas nécessaire de l'inclure dans la présentation du fait que la proposition négative se convertit. On échappe aux deux dernières listes. Et alors c'est là que ça se complique. Parmi les termes que cette chose implique, il faut encore distinguer ce qui est compris dans son « ce que c'est » et les termes qui lui sont propres, et ceux qui s'appliquent à elle comme des accidents. Donc Aristote envisage cette fois un feuilletage du tableau, puisque derrière ce tableau qui a l'air d'être pensé pour des essences, on va faire quelque chose d'équivalent pour des propres et même pour des accidents. Alors, la question de savoir ce qui est impliqué par soi, par une propriété, par accident de mon objet, Aristote ne s'en explique pas. J'ai un peu de mal, mais peut-être on pourrait donner un exemple qui n'est pas du tout aristotélicien. Si je dis d'une chose qu'elle est en mouvement, et par exemple qu'elle est en mouvement circulaire ou en mouvement rectiligne uniforme, eh bien, les propriétés nécessaires du cercle ou de la droite ou du mouvement circulaire ou du mouvement rectiligne uniforme sont probablement dans les propriétés automatiquement impliquées à partir du moment où j'ai observé, par exemple, que les astres se meuvent dans un mouvement circulaire uniforme. Donc, ça peut fonctionner. Et ça peut donner de la connaissance qui est également scientifique. On peut retirer souvent des premiers analytiques l'impression que la science d'Aristote, c'est surtout une science qui consiste à explorer les définitions, le TST ou le TNI-NAI, mais ce passage nous montre que ça peut s'élargir. Et puis, alors, il ajoute encore, et parmi ceux-ci, lesquels s'appliquent à elle selon l'opinion et lesquels selon la vérité. Encore un élargissement. Et alors, c'est frappant d'ailleurs de voir que finalement, cet exposé qui fait partie des premiers analytiques a un point de départ qui est qui concerne plutôt la science. C'est une sorte d'inclusion des secondes analytiques dans les premiers, sauf qu'Aristote élargit considérablement le modèle et qui récupère en quelque sorte la dialectique, le vraisemblable, le plausible, par l'intermédiaire de ce qui s'applique sur le...
Oui, excusez-moi, juste une remarque là, c'est à propos de ce que vous venez de dire, à propos du mouvement.
Oui.
Dans le deuxième paragraphe, parmi les termes que cette chose implique, il faut compter ceux qui s'appliquent à elle comme des accidents.
Oui.
C'est étonnant que la chose implique ces accidents,
non,
en quelque sorte.
C'est ça.
Oui, c'est...
Non, je crois... Alors, oui, déjà, ces trois termes qui apparaissent, là, ce que c'est les propres et les accidents, c'est les prédicables des topiques, hein, vous les avez reconnus
oui,
au passage.
Sûr.
C'est les prédicables... Bon, il n'y a pas le genre, parce qu'en fait, le genre est dans les termes qui impliquent... Oui. Non, qui sont appliqués par la définition de la chose. L'animal est appliqué par l'homme. Mais ce n'est pas l'accident qui est impliqué directement par la chose. Mais si j'admets... Par exemple, qu'un astre
est en mouvement
circulaire uniforme, alors toutes les propriétés nécessaires du mouvement circulaire uniforme deviennent prédicats nécessaires pour l'astre, via son mouvement. Je crois que c'est comme ça que ça marche. J'en dirai pas plus pour ici, sauf si vous avez à nouveau des questions à me poser. Je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, mais j'ai besoin d'avoir dit autre chose entre deux. Donc ça marche. Alors, je reviens au plan que j'avais aussi initialement. Et qui part au fond d'une expérience très terre-à-terre de traducteur. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer que ça va plus. Il me semble qu'on trouve finalement dans les différents endroits de l'organone ce que j'appelle ici différents registres de langage, c'est-à-dire des terminologies différentes, assez bien identifiables, et qu'on remarque d'autant plus qu'elles apparaissent parfois transposées, si j'ose dire, d'un traité à l'autre. Ce qui m'a frappé au fond, en tant que traducteur, ça a été de voir comment, dans les secondes analytiques, on trouve de temps en temps du vocabulaire des topiques, c'est-à-dire Aristote va parler de la manière de poser des questions à l'interrogateur. On a l'impression qu'on est à des années-lumière des topiques, qu'on est dans un tout autre contexte, on faisait de la science hypothético-déductive, puis tout à coup il dit, mais voilà, alors, comment est-ce que je vais poser ma question ? À d'autres endroits, on retrouve évidemment, et alors là, massivement, le vocabulaire, évidemment, de la déduction formelle, entre guillemets, ce qu'on appelle la déduction formelle, c'est-à-dire les premiers analytiques. Et bon, il y a d'autres exemples du même genre. Et au fond, ce que je me proposerais de faire, et ça vraiment j'aimerais l'écrire un jour quelque part et le valider sur plusieurs textes, je ne l'ai pas fait du tout en tant que traducteur. C'est l'idée qu'il y a, alors j'en trouve actuellement au moins 3 ou 4, et peut-être il en faudrait d'autres, des registres de langage différents qui correspondent à ce que j'appelle des jeux de langage différents. C'est-à-dire des pratiques intellectuelles, mais intellectuelles presque socialisées pour certaines d'entre elles, qui sont différentes. Mais presque des jeux au sens où Wittgenstein avait défini les jeux avec ces comparaisons constantes avec le jeu d'échecs ou des choses comme celle-là. Et ce que je voudrais tenter de montrer, c'est d'une part en quoi consiste chacun des 4 jeux, comment ils se combinent entre eux, et que éventuellement il faut être sensible, y compris pour bien comprendre la terminologie, à ces différences. Alors le tout premier, historiquement, on va presque dire, c'est le jeu de langage dialectique. On a un questionneur et un répondant. La situation est ordinairement agonistique, même si Jacques Braunschweig note dans son introduction au topic qu'il y a des passages dans les topics même qui indiquent la possibilité d'un jeu coopératif. Et si finalement Aristote lui-même note, ça doit être au livre 7, j'ai pas pensé à prendre la référence, que dans la recherche proprement scientifique, au fond, le dialogue devient un monologue. Mais sans perdre tout à fait certaines caractéristiques du dialogue. Alors, il s'agit d'examiner une thèse proposée, problème A, en vue de l'établir ou de la rejeter. L'étape décisive s'appelle un syllogismos. Vous savez sans doute aussi, c'est quelque chose qui a souvent été relevé et qui a rendu les gens un peu perplexes. La définition du syllogismos est exactement la même au premier chapitre des topiques et au premier chapitre des premiers analytiques, et d'ailleurs aussi au premier chapitre des réfutations sophistiques, alors qu'on a l'impression que le référent est quelque chose de tout à fait différent. Alors j'écris un article en 2011 qui s'appelle « Du syllogismos au syllogisme » et où je défends la thèse qu'en effet la définition est la même parce que le sens est exactement le même, mais que le sens n'est pas celui de modèle de raisonnement. Syllogismos, c'est très exactement l'instant dans un débat dialectique, et Platon l'emploie déjà comme ça à un ou deux endroits, à d'autres endroits, il dit sun katarithmein ou des choses comme ça, mais c'est le moment où on s'arrête et où on fait les comptes, et où éventuellement on règle ces comptes. J'ai cité dans le volume un exemple caractéristique du Gorgias. Évidemment, le Gorgias, le dialogue polémique par excellence, Polos ne veut rien céder, et où à un moment Socrate dit, mais voilà, si tu admets que ça, et que ça, et que ça, alors tu es obligé d'admettre ça. C'est le joueur de cartes qui pose sur la table les cartes qui lui restent dans la main parce qu'il est certain de faire tous les plis qui restent. Donc, c'est ça le syllogismos. Et quand on lit ensuite dans les premiers analytiques Ginetai syllogismos ou Ginetai syllogismos, ça veut dire, avec ces deux prémices-là et ce moyen terme-là, on peut ou on ne peut pas remporter effectivement la victoire, marquer le point décisif qui s'appelle le syllogisme. Alors, on voit en outre qu'appartient à ce vocabulaire la notion de prémisse, protasis, okay, et un certain nombre de termes qui indiquent des actes posés par le répondant. Une caractéristique au fond du jeu dialectique, c'est que il est orienté par l'interrogateur, mais qu'on avance en fonction des réponses du répondant. L'interrogateur a le choix de proposer les prémices, c'est pour ça que les prémices sont devenues dans les langues modernes des propositions, parce qu'au départ elles sont proposées par l'interrogateur, mais on avance dans la direction suggérée par l'interrogateur que dans la mesure où le répondant dit d'accord. Donc il prend, il pose, il accepte, éventuellement il accepte sous condition. Voilà à peu près la terminologie du premier jeu. Premier jeu parfaitement décrit dans les deux derniers livres, en particulier des topiques, et il est clair que les réfutations sophistiques y font allusion aussi. Alors, deuxième jeu de langage, le jeu de langage que j'appelle analytique, en l'honneur des premiers analytiques, et que je me permets d'appeler figurationnel. Alors, c'est des termes qui sont autant dialectiques, logikos, dialectikos, et parfaitement établis chez Aristote, autant là, il y a un analytikos à un endroit privilégié des secondes analytiques, qui est intéressant, c'est opposé à logikos, et il y a aussi toujours dans les secondes analytiques cette expression epiton schematon, qui peut vouloir dire très concrètement, on va regarder une figure, on va la faire, on va la tracer. Donc, on se réfère à des objets désignés par des lettres qui sont des termes. Et alors, je tiens que ces termes ne sont pas des variables. Il y a de la quantification dans les premiers analytiques, mais elle ne porte pas directement sur les termes. Termes, là, il y a vraiment un vocabulaire géométrique qu'il faut prendre au sérieux. Terme, c'est horos, et le terme est introduit à partir de la notion de prémisse. Et les deux termes sont vraiment les deux extrémités de la prémisse. Là, j'y reviendrai tout à l'heure. En plusieurs endroits importants, Aristote appelle diastéma le vecteur qui va d'un terme à l'autre. Ce n'est pas la même chose que proposition. Les traducteurs allemands, Ebert et Nordmann, et Tricot d'ailleurs aussi, ont cru bon, et ce n'est pas idiot non plus, de le traduire par relation. Parce que probablement ça les gêne d'écrire intervalle négatif ou intervalle universel. Et c'est vrai que c'est gênant. Il finit par l'écrire, et au fond, en y réfléchissant aujourd'hui, je pense même que c'est pire qu'un intervalle, c'est un trajet, au sens de la SNCF et de la RATP. Puisque ce n'est pas le même diastéma, suivant qu'on va de Lille à Paris ou de Paris à Lille. C'est quelque chose comme ça. Un terme ici est dit être le cas pour un autre. Là aussi, la copule n'existe pas dans les premiers analytiques. On pourrait dire qu'Aristote a essayé de l'éviter. Il l'a réintroduit dans l'interprétation avec des motifs qui sont les siens. Je ne sais pas si on aura le temps de parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces objets sont vraiment des objets spatiaux. Ça, c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. C'est la seule chose sérieuse que j'ai à vous dire. Alors, ils se situent dans un espace qui est profondément abstrait, beaucoup plus que celui de la géométrie de Clyde. Parce que c'est un espace de concept. Les deux dimensions sont utilisées pour modéliser des relations entre les termes, mais ces relations n'ont aucun support. Vous voyez, la géométrie, la mécanique sont des abstractions, mais finalement, Aristote le dit très clairement, pour lui, des abstractions de la réalité. Autrement dit, c'est les arêtes d'une maison, ou c'est les arêtes d'un cristal, je ne sais pas. Ici, on est dans un espace qui est beaucoup plus abstrait et qui a été créé d'une certaine façon à partir de rien. Je pense que l'initiateur de d'un tel espace, c'est Platon. Alors, une caractéristique intéressante de cet espace, c'est qu'il a un haut et un bas, le haut correspondant au côté de l'universel ou du prédicat, le bas correspondant au côté du particulier ou du sujet. Ce qui est remarquable, c'est qu'Aristote ne s'explique jamais sur le choix de cette orientation. Pour lui, ça a l'air évident. Et peut-être qu'au début du chapitre 27, quand même, des premiers analytiques, il le dit un petit peu. Alors, j'ai pensé que c'était parce que ça venait de Platon. Et au fond, je m'apprêtais à vous trouver une citation de Platon pour illustrer la ressemblance. Il n'y en a pas. J'ai bien regardé, j'espère avoir regardé d'assez près les textes du Politique et du Sophiste où Platon fait de la diérèse. Il ne parle jamais du haut et du bas. Il parle de l'avant et l'arrière. Quand l'étranger s'aperçoit qu'on a commis une erreur, qu'il voudrait peut-être mieux reprendre les choses, j'allais dire, d'un peu plus haut, il dit « revenons en arrière » et avançons. Le modèle des diérèses de Platon est narratif. Il n'a pas encore ce modèle spatial à deux dimensions qui pourtant, pour Aristote, allait être une évidence. La conclusion que j'en tirerais, tout à fait hypothétique, une conclusion historique, c'est de dire « ça a dû être créé à l'Académie ». Ça ne mange pas de pain, hein, et c'est peut-être pas important. J'oubliais le dernier point qui est important, quel est le but? À chaque fois, il faut demander quel est le but du jeu de langage. Le but du jeu de langage numéro un, c'est d'examiner une prétention, une affirmation, soit pour la rejeter, ce qui est souvent le cas, parce qu'il y a tout l'arrière-plan exétastique et hélénctique de Socrate, soit pour la fonder, éventuellement. Et ici, le but du jeu, c'est de modaliser les inférences. De modéliser, pardon, les inférences. Alors, je rattache, peut-être à tort, c'est pour ça que j'en ai fait un 2 bis, à ce deuxième jeu de langage, un troisième qui est le jeu de langage taxinomique. Pour une raison déjà historique textuelle, c'est qu'à la fin de la section sur le pont aux ânes, Aristote écrit que la diérèse platonicienne n'est qu'une petite partie de la méthode que nous venons d'exposer. Et on voit bien ce qu'elles ont de commun. Hein. C'est ce que j'ai noté dans la première ligne. On se représente comme donné ou donnable tout ce qui peut être dit de façon vraie des objets qui constituent le monde ou une partie définie du monde. C'est-à-dire, ces relations qui constituent les listes du pont aux ânes dont je viens de parler sont des relations profondément objectives. Si on était l'ébénicien, peut-être on dirait elles sont comme ça dans l'esprit de Dieu. Il est remarquable qu'Aristote n'utilise jamais ce modèle. Que Plotin, en un sens, déjà emploiera, puisque les intelligibles sont dans le nous, et les formes sont dans le nous, etc. Aristote évite, mais il ne dit rien. Il dit pas du tout où elles sont. Par contre, clairement, il pense qu'elles ont quelque chose d'objectif et que l'intelligence humaine, s'appuyant sur les sens, est capable d'y accéder. Et à partir du moment où on a cette représentation, on peut explorer cette réalité, cette structure de la réalité, et ça nous donne une certaine connaissance que je qualifie de connaissance notionnelle. J'ai expliqué peut-être pourquoi dans une minute. J'ai oublié la terminologie propre à ce jeu de langage, qui est évidemment les espèces, les genres, les différences. C'est par exemple le chapitre 13 du livre 2 des secondes analytiques. Vous voyez pourquoi il est coordonné chez Aristote très clairement avec le précédent, hein, puisqu'au fond, dans le pont aux ânes, ça sert précisément à produire et à valider les modèles déductifs valides. Et enfin, alors là vous le connaissez aussi très très bien, c'est presque pas la peine d'en parler, le jeu de langage hypothético-déductif décrit magnifiquement par Aristote dans la première partie des secondes analytiques, et qu'on peut résumer avec la formule de la métaphysique que je vous ai donnée en texte numéro 2. Toute science démonstrative considère à propos d'un certain objet posé au départ, peripti hypokalimenon, ses propriétés par soi, takatota subebekota, à partir des opinions communes à ce sujet, periton koinon doxo, ce qui donne trois éléments, le genre objet de la science, les propriétés démontrées, c'est-à-dire les propositions qui, en attribuant ces propriétés à l'objet ou à un certain secteur de l'objet, produisent les théorèmes de la science en question, et enfin les propositions aux connaissances à partir desquelles on démontre que Aristote appelle collectivement principe et qu'il subdivise à partir de secondes analytiques et indices, il y a les axiomes, il y a les postulats, etc. Je précise pour les secondes analytiques que ça se développe à la fois en lien avec une sémantique de la définition et avec une sémantique de la cause, et enfin que le but du jeu de langage est cette fois de constituer un corps de propositions vraies qui rendent compte de façon explicative de la réalité. C'est la différence avec le jeu de langage simplement notionnel que nous venons de voir. Alors, ça correspond, vous voyez, plus ou moins à des sections entières de l'organon. Le premier jeu de langage correspond au topic avec les catégories et les réputations sophistiques. Le deuxième correspond au moins à l'ensemble même des premiers analytiques. Le troisième, le deuxième bis, correspond notamment aux fonds aux ânes, mais aussi à des chapitres entiers du livre 1 des parties des animaux. Et même à des discussions très abstraites, très techniques, sous Lucia, dans la deuxième partie du livre Zeta de la métaphysique. Et puis le dernier, évidemment, c'est les secondes analytiques. Alors, on voit que, encore une fois, je ne prétends pas du tout poser une relation d'exclusion entre ces registres et ces jeux de langage, mais simplement inciter, au fond, vous inciter, quand vous relirez de l'Aristote, à être sensible au fait que ce n'est pas la même chose. Que notamment, la terminologie doit être, la compréhension qu'on a de la terminologie doit toujours être liée à ça. Par exemple, il me paraît dommage de traduire uparkei avec datif dans les premiers analytiques par appartiendra. Appartiendra, c'est du vocabulaire déjà de la science constituée. L'intelligence, le langage, la station debout appartiennent à l'homme. Mais les premiers analytiques disent beaucoup moins. Un certain état de fait est le cas pour l'homme. Éventuellement, est le cas nécessairement. Et s'il est le cas nécessairement, c'est probablement parce qu'il appartient, etc. Mais vous voyez cette différence. Ou pour prendre peut-être encore deux autres exemples, on remarque parfois on a l'impression, quand on commence à traduire ces textes, d'une ambiguïté entre horos, terme, et horos, définition, parfois relayée par horismos. Horos, définition, appartient plutôt à 2, vis et à 3, et horos, terme, est caractéristique de 2. Et par exemple, à la limite, la métaphore étymologique, si on veut, n'est pas du tout la même. Quand j'appelle une définition horos ou horismos, je pense à un contenu de pensée qui est d'abord un petit peu intuitif et approximatif. L'enfant a une notion de ce que c'est qu'un animal, une bête, il en voit autour de lui, puis à un moment il acquiert la définition de ce que c'est qu'un animal qui l'oblige à reconnaître que même une éponge ou une huître ou je ne sais pas quoi sont des animaux. Donc on a un contenu un peu informe et un peu substantiel mais un peu flou auquel on va imposer des limites. Alors que horos terme dans les analytiques, c'est vraiment la prémisse qui va d'un terme à l'autre. D'une certaine manière, il ne devrait y avoir aucune confusion. Je pense qu'il n'y en a aucune dans l'esprit d'Aristote. Il est comme nous tous, quand on parle notre langue maternelle, il donne aux mots, suivant le contexte, un sens différent, et ça ne le gêne absolument pas. Parce que lui parle le grec. Les traducteurs se disent, il faut que j'arrive à conserver toutes les connotations des différents emplois. J'aurais tendance à penser que c'est une erreur. Enfin, c'est un choix, disons, mais je préfère dissiper les confusions que les entretenir. Et alors, on peut remarquer aussi que ces différents jeux de langage, quand même, s'organisent, et au fond, le plan de Danganon va lui-même dans ce sens-là, d'une façon un petit peu cumulative et finalisée. Finalement, tout ça sert aux secondes analytiques. Tout ça sert aux secondes analytiques, et parce que les secondes analytiques entendent achever le programme platonicien de République 6 et 7. Donc, pour qu'une science soit bien constituée, il faut qu'il y ait des objets qu'on est capable de définir, et il faut qu'il y ait des inférences qui soient correctement construites, et il faut en fin de compte qu'on ait un système d'explication causale qui soit lui-même cohérent, complet, etc. Voilà donc un peu comment je vois les choses à ce niveau. Un autre terme, une autre ambiguïté qui est assez jolie, c'est celle de hypotheinai, hypokeimenon. C'est quelque chose de tout à fait différent de se dire qu'une prémisse est posée sous condition ou de dire qu'un objet est le substrat d'une propriété qu'on lui accorde. On est dans des domaines entièrement différents, même si l'image posée à la base, la métaphore, est la même. Hein, je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut voir. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. J'aimerais bien un jour être capable d'être encore plus clair là-dessus. Alors, ce que je voudrais examiner, qui est le titre de ma conférence aujourd'hui avec vous, c'est... Oui, les 4 heures. Mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est le jeu de langage numéro 2. C'est ça, au fond, que j'appelle figuration. En partie peut-être avec un peu une intention contrastive, voire polémique, pour me démarquer de la notion de formalisation, du moins telle qu'on l'entend aujourd'hui. J'ai des collègues tout à fait éminents, excellents connaisseurs d'Aristote, etc., qui essaient proposer des modèles formels de la syllogistique d'Aristote. Il y en a un certain nombre, les références sont données ici. Ils pensent la formalisation comme la production d'un système qui permet de produire des vérités à partir de lignes de calcul et d'arriver finalement à retrouver toutes et rien que les vérités, les affirmations posées comme vérités par Aristote dans les premiers analytiques. C'est un peu ça le travail. J'ai essayé de montrer que... j'ai toujours eu beaucoup de mal en tant que simple traducteur essayant de lire le texte, parce que pour le traduire, il faut vraiment lire, avec cette manière de faire. Et j'ai au contraire commencé à comprendre quelque chose quand j'ai pris très au sérieux le vocabulaire spatial et les références qui sont données à des figures au sens concret du terme. Je saute peut-être tout de suite à quelque chose que j'ai mis, je crois, en T5. Mais j'y reviendrai. Hein. J'ai été extrêmement intéressé par une thèse pour laquelle j'ai eu la chance d'être invité au jury et qui est devenue maintenant libre. C'est la thèse d'Andrea Carbone qui est publiée aujourd'hui sous le titre Aristote illustré. Je peux vous rappeler que j'ai oublié, mais... Représentation du corps et schématisation dans la biologie aristotélicienne. Et Carbone fait exactement l'hypothèse que très nombreux passages du corpus zoologique réfèrent à des figures, et à des figures, dit-il, qui devaient être des figures schématisées. C'est-à-dire pas forcément des représentations réalistes de ce qu'on observe par exemple dans les dissections, mais au contraire des représentations schématisées, ce qui est bien plus utile. Je me souviens quand ma fille étudiante en médecine a eu ses premières séances de dissection et ses premiers blocs opératoires, elle m'a dit, mais c'est terrible, on ne reconnaît pas du tout ce qu'il y a sur les schémas d'anatomie, parce que c'est toute la même couleur, c'est flou, et le schéma, évidemment, il est là, lui, pour mettre de l'ordre dans nos perceptions. Et alors Carbone argumente, mais de façon tout à fait pertinente, il ne fait pas d'hypothèse trop archéologique comme celle que je vais faire tout à l'heure, pour dire que le texte ne se comprend que par référence à des schémas de ce type-là. Alors j'étais très content parce que j'avais complètement omis de faire envoyer ma traduction à Carbone, mais il a lu quand même, et il m'a écrit un mail pour me dire, ben, ça me fait plaisir, on dit la même chose. Donc, il faut prendre tout à fait au sérieux ce modèle spatial. Et si on essaie de reconstituer les schémas auxquels Aristote peut se référer, on arrive à ce que j'ai présenté dans mes figures F1, 2 et 3. Le modèle le plus basique, c'est deux propositions et trois termes. Deux propositions, parce que s'il n'y en avait qu'une, ce serait une inférence immédiate, c'est-à-dire une façon de reformuler la même proposition, ce serait analytique, hyper analytique au sens de Kant, cette fois. Et trois termes, parce que les deux propositions doivent avoir un terme commun. Et alors Aristote montre très bien, sans, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps d'en parler, mais c'est par exemple mon texte 3, tiré des mots analytiques, j'en dirai quand même deux mots, que ensuite, toutes les déductions qui ont l'air plus complexes, et au fond une théorie scientifique entière, s'analyse en petits éléments qui sont des variantes de cette configuration syllogistique. C'est vraiment les atomes de la construction d'un argument complexe et naturellement de la construction d'une science. Alors, pourquoi est-ce que je la représente exactement comme ça? Donc j'ai déjà eu l'occasion de mentionner que les termes premiers sont les points, qui représentent des termes justement, et que entre les points, les lignes ne définissent pas une figure stable, ce sont les trajets, les parcours possibles. C'est pour ça que dans les notes de ma traduction, je les ai appelées des graphes. Absolument simplet, mais effectivement des graphes. D'autre part, la meilleure manière de représenter ces trois points, me semble-t-il, c'est de les mettre, j'ai pas réussi tout à fait sur la figure que vous avez faite là, en triangle équilatéral, parce qu'on va voir que on va pouvoir faire pivoter le graphe pour modifier la fonction des différents termes. Donc, triangle à peu près équilatéral, et si le triangle est mis dans cette position légèrement décalée, c'est pour respecter autant que possible l'idée d'un espace orienté avec un haut qui est le côté le plus universel et un bas qui est le côté le plus particulier, de telle sorte que le sujet de la conclusion soit toujours en dessous du prédicat. Alors, une fois qu'on a compris ce modèle, on comprend pourquoi il y a trois figures et pourquoi elles s'appellent effectivement... D'abord, pourquoi elles s'appellent figures et pourquoi il n'y en a que trois. La première figure, c'est deux prémices consécutives. Deuxième figure, deux prémices divergentes. Troisième figure, deux prémices convergentes. Il n'y a pas besoin d'une quatrième figure. Alors que si on raisonne en termes prédicat-sujet, on va employer la fameuse formule des médiévaux, pré-sub-pré-pré-sub-sub, et évidemment, on a envie d'ajouter sub-pré. C'est-à-dire, dans la première figure, le moyen terme est prédicat E, sujet, j'ai dit prédicat, au contraire, sub-pré. Il est sujet dans la majeure et prédicat dans la mineure. Dans la deuxième, il est prédicat des deux côtés. Dans la troisième, il est sujet des deux côtés. Mais on n'a pas besoin de ça si on pense simplement que les figures ont cette forme-là. Et alors, après, quand, par exemple, on va essayer de ramener, de valider les modes de la deuxième et de la troisième figure en les ramenant à la première, on comprend très bien qu'il s'agit tout simplement de convertir une des prémices pour arriver à un schéma avec des prémices consécutives. Si je veux passer de la deuxième à la première, il faut que je convertisse, c'est-à-dire que j'échange la position des deux termes, que je change le sens de la flèche, dans l'une des deux prémices. Et pareil pour la troisième. Ça se voit d'ailleurs, me semble-t-il, assez bien quand on regarde le début, les trois premiers chapitres du livre 1 des premiers analytiques. Puisque... c'est une chose qui a été remarquée, moi je rattache ça à Miles Dornit, mais peut-être que d'autres l'avaient dit avant lui. Il l'explique assez clairement dans la fin de son petit livre qui s'appelle A Map of Metaphysics Zeta, et je ne l'avais pas lu ailleurs, ce qui ne veut pas dire que ce soit absolument une découverte. Alors que la plupart des traités d'Aristote ont de belles introductions, éventuellement problématisantes, et puis souvent, après une introduction problématisante, une notion graphique, les traités de l'Organon commencent tous sèchement. Alors, il y a peut-être une raison historico-biographique. Aristote est très fier de dire qu'avant lui, dans ce domaine-là, il n'existait à peu près rien. Pas forcément très gentil pour Platon, mais c'est en tout cas ce qu'il dit. Donc, il n'y a pas forcément moyen, effectivement, de faire une doxographie, malgré tout. Ce modèle ressemble exactement à celui, semble-t-il, des traités géométriques de l'époque. Alors, je dis, semble-t-il, avec un peu de précaution oratoire, parce parce qu'au sens strict, on n'a pas de traité géométrique contemporain d'Aristote. Nos informations les plus précises sur les manières de travailler des géomètres à l'époque d'Aristote nous viennent d'Aristote lui-même. Et l'idée que, par exemple, les éléments d'Euclide ont en partie été mis en forme à partir d'un modèle canonique qui est celui des secondes analytiques, ce serait une sorte de prêté pour un rendu, c'est-à-dire Platon d'abord dans la République, puis Aristote dans secondes analytiques, s'efforce de structurer, de présenter un modèle de la science hypothétique ou déductive, et finalement les géomètres eux-mêmes s'y mettent. Malgré tout, alors, j'ajoute, parce que c'est une lecture que j'ai fait récemment et qui m'a un peu ébranlé, qui m'a mis un peu dans le doute, il y a quelqu'un qui s'appelle Réviel Metz, qui est un type assez passionnant dans l'étude des textes grecs archaïques. Il a écrit un article dont j'ai donné, je crois, la référence dans la bibliographie, à propos de Hippocrate de Chios, qui est toujours considéré comme le premier auteur d'éléments. Et à partir, alors, il y a eu une étude célèbre à faire, qui a été faite et refaite plusieurs fois depuis Coltanry, du témoignage d'Eudème de Rhodes sur Hippocrate de Chios dans le commentaire de Simplicius à la physique d'Aristote, à propos de la fameuse question de la quadrature des lunules et de la quadrature du cercle. Et ce texte est vraiment un texte à niveau, c'est-à-dire, parlons pas de Simplicius qui devait être un citateur honnête et un bon copiste, mais il cite Eudème, donc, génération qui suit Aristote, lequel se réfère ou présente des résultats d'Hippocrate. Et la question est toujours de savoir ce qui est Eudème, ce qui est Hippocrate, et éventuellement ce qui est Simplicius. Et alors, Metz va très loin dans l'affirmation que Hippocrate n'avait pas forcément ce modèle géométrique qu'on a aujourd'hui. Et il dit, au fond, c'est Aristote qui a créé la distinction des corps de savoir, et c'est parce que Eudème était un disciple d'Aristote que, etc. Alors, après avoir été très ébranlé par la lecture de cet article, j'ai quand même un peu repris mes esprits, et on a un document quasi contemporain d'Aristote, le plus ancien, je crois, c'est La sphère en mouvement de Ptolémée de Pitane, qui a été écrit dans les décennies qui ont suivi la mort d'Aristote, et c'est bien construit comme ça. Et là, c'est le texte authentique. On n'a aucune raison d'en douter. Donc, ces textes géométriques commencent par des définitions, et après par des propositions qui indiquent au fond ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on peut faire comme construction. Et c'est exactement ce qu'on trouve au début des premiers analytiques. Définition de tous les termes importants, proposition, prémisse, terme, syllogisme, et ensuite, alors à la charnière des deux, les éditeurs l'ont mis encore dans le chapitre 1, ça devrait peut-être faire partie déjà du chapitre 2, le fameux énoncé qu'on appelle Dictum de Omni ou Dici de Omni, dans lequel Aristote explicite la définition de tel prédicat est le cas pour tout X, en expliquant que ça signifie qu'on ne peut pas prendre un X qui ne soit pas P, par exemple. Je dis que cette définition n'est plus tout à fait une définition qui a un caractère de règle, parce qu'elle sera utilisée en fait dans la suite pour montrer que certaines situations sont impossibles une fois qu'on a posé une certaine prémisse. Et puis après on trouve les conversions. Et quelle est la fonction des conversions? C'est tout simplement de permettre ce travail sur les figures que j'ai proposées ici. Une remarque en passant, vous connaissez peut-être, souvent c'est ce que les gens ont à l'esprit quand on parle de figure à propos de, du syllogisme, les modèles classiques ensemblistes, avec des cercles ou des patatoïdes inclus ou se croisant l'un l'autre, c'est le modèle Alors, pour moi, la première occurrence un peu systématique, c'est dans les lettres à une princesse d'Allemagne de l'air, mais on le trouve dans les Blitz. Je l'ai trouvé dans l'un des fragments philosophiques inédits publiés par Couturat dans la grande version. Et autrement dit, Leibniz ne connaît que le modèle extensionnel, me semble-t-il. Je ne vais pas l'affirmer, parce que je suis loin d'être un spécialiste de Leibniz, et lire tout ce que Leibniz a écrit sur ce logisme est au-dessus de mes forces, mais j'ai cette impression. En tout cas, ce que je veux dire, c'est avec cette ouverture, avec ces premiers chapitres des premiers analytiques, il y a au fond deux éléments qui vont jouer un rôle dans la production et la discussion des modes syllogistiques. Il y a un élément extensionnel, le dicti de omni, le dictum de omni, comme vous voudrez, c'est-à-dire l'espèce d'évidence de l'emboîtement des classes. Si tous les B sont des A et si tous les C sont des B, alors tous les C sont nécessairement des A. Et puis il y a les conversions, c'est-à-dire la possibilité de modifier les structures en changeant le sens des flèches. Et au fond, les deux manières de figurer le syllogisme ont l'une et l'autre leur légitimité. Simplement, il faut choisir entre les deux. Si on montre l'aspect inclusion de classe l'une dans l'autre, on ne peut plus montrer l'aspect modification de la structure. Si on montre l'aspect modification de la structure, on ne montre plus directement l'aspect inclusion de classe. On est obligé de le signaler par des petits artifices. On peut, dans ma traduction, j'ai fait des flèches plus épaisses. Vous verrez dans les extraits de manuscrits que je vous ai donné là, que les gens du Moyen-Âge mettaient des lettres à côté de l'arc de cercle qui signifiait que c'était une universelle, une négative, etc. Je vais vous le montrer dans une minute. Autrement dit, l'inclusion de classe n'apparaît plus dans mon modèle que comme une contrainte pesant sur certaines conversions. Il y a des conversions qui peuvent être faites, mais certaines d'entre elles ne peuvent l'être que moyennant une modification de la quantité. C'est-à-dire, tous les A sont des B, A pour converse, quelques B sont des A. Ça, c'est ce que j'appellerais une espèce de présence implicite de l'aspect extensionnel. Alors pourquoi est-ce que j'ai privilégié l'autre aspect? Mais tout simplement parce que le vocabulaire d'Aristote va beaucoup plus avec ses prémices représentées par des trajets et avec ses points dans un espace du côté des graphes que du côté des classes incluses les unes dans les autres. Alors, juste une remarque, peut-être deux remarques avant de quitter ce point-là. Une fois qu'on arrive à lire le texte comme ça, ça va très bien, ça va très vite. Et ne répétez pas, notamment mes collègues logiciens, mais j'en arrive à me demander si c'est utile de chercher une autre formalisation que celle-là. C'est une formalisation qui est parfaitement adéquate, qui est extraordinairement simple. Il n'y a besoin que de faire ces petites opérations dans un espace à deux dimensions et on arrive à tout reconstruire. Et dès qu'on cherche à le réécrire sur un mode calculatoire, ça devient en réalité beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure adéquation de la figuration par rapport à la formalisation. J'avais un petit peu pensé à proposer comme titre figuration versus formalisation. Et au fond, quand les logiciens métiers d'aujourd'hui cherchent à reconstruire la première partie du livre 1 des premiers analytiques sur le modèle hypothético-déductif, alors c'est curieux parce qu'ils utilisent un modèle qui est aristotélicien. Ils utilisent un modèle qui a été donné par Aristote lui-même. Mais on peut se demander si Aristote entendait que ce modèle s'applique à sa petite analytique élémentaire. Et au fond, on a un indice. Pour Aristote, il ne semble pas que l'analytique soit une science. Et n'étant pas une science, il n'est pas prouvé qu'elle doit être construite sur le modèle hypothético-déductif. Mais c'est purement spéculatif et un peu polémique. La remarque... des questions déjà là-dessus ? Il faudra quand même que je vous laisse un peu de temps pour parler à la fin, sinon ça va être terrible. Alors, ma remarque archéologique, dont j'ai commencé à parler à propos de Carbonet, j'ai vraiment la conviction, tout à fait impossible à prouver, comme vous allez voir, que le texte d'Aristote se comprend beaucoup mieux et qu'il a été écrit pour être compris en suivant sur des figures. Je pense que ces figures ont existé. Et je veux un indice qui vaut ce qu'il vaut. Dans le catalogue des œuvres d'Aristote donné par Diogène Laërce, c'est mon texte numéro 5, il est question de premiers analytiques en vie libre. Or, nos premiers analytiques ne comportent que deux livres, à vrai dire deux livres fort longs. Alors, une remarque pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas habitués à ces questions de bibliothéconomie antique. Un livre, jusqu'à l'invention du codex, c'est-à-dire sauver l'objet, c'est des feuilles de papyrus collées les unes aux autres en rouleaux. Un rouleau de papyrus, normal, notamment dans les œuvres qui ont été divisées en plusieurs volumes à cause de leur longueur, c'est 3 mètres. C'est en gros 20 pages de 15 cm de large. Si, ça se peut vérifier à peu près pour toutes les grandes œuvres d'Aristote écrites en plusieurs traités, bon, il y a des cas particuliers comme Petit Alpha de la métaphysique, mais trahit justement son caractère de... d'ajout, il n'a pas toujours fait partie du texte et on l'a ajouté spécifiquement, excusez-moi. Nos premiers analytiques feraient, notamment le livre 1, beaucoup plus que les 3 mètres standards de l'époque d'Aristote ou de l'époque de la bibliothèque d'Alexandre. Mais ça représenterait guère plus que 4 ou 5 rouleaux standards. Alors pourquoi il y en avait 8 ? Une explication simple serait de dire... le texte était accompagné des figures nécessaires. Je n'en ferai pas une affirmation radicale. On pourrait imaginer d'autres choses. Par exemple, peut-être qu'ils avaient fait des petits, plus petits rouleaux pour les consulter plus facilement. Possible, hein ? Parce que c'est terrible de devoir se retrouver. C'est un peu comme pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous dira même plus rien. Mais quand on essayait de retrouver les choses sur une bande magnétique ou sur une cassette, il fallait dérouler en se repérant de façon plus ou moins approximative. Et le lecteur de papyrus était dans cette situation. C'est pour ça dire que les grands anciens citent de mémoire. Ils trouvent plus commode de citer de mémoire que d'aller recopier le passage. Alors que Saint-Pécius a une bibliothèque avec des codices, et lui il va chercher le livre, il ouvre la bonne page. Et c'est pour ça que les citations les plus tardives de l'Antiquité sont les plus littérales, les citations les plus anciennes sont les plus approximatives, faites de mémoire. Alors si on regarde maintenant l'histoire de la transmission du texte d'Aristote, on trouve des figures, alors j'ai cherché un peu dans les manuscrits accessibles sur Internet, etc. J'ai trouvé le plus ancien que j'ai trouvé, c'est un manuscrit parisien, le Cosminianus 330, d'où j'ai tiré les 3 figures que vous voyez là, il y en a une pour chacune, première, deuxième et troisième figure. Vous voyez qu'elles ne sont pas exactement comme mes petits triangles, petits graphes triangulaires, mais elles ont des points communs quand même. Notamment, on voit bien que la deuxième figure est divergente et que la troisième figure est convergente. Alors, peut-être pour en analyser une, je ne vais pas vous imposer de lire tous ces graffitis. Vous voyez alpha, bêta et gamma, par exemple, sur la figure de la première figure, figure 4. Hein, vous verrez les 3 lettres aux trois sommets de la petite lilule. Alors vous voyez que à côté de l'arc alpha-bêta, on a une espèce de petite boucle comme ça. Surmonté d'un petit machin comme ça. Ça, c'est OU. Et ça, c'est delta. Et c'est une abréviation de Houdini. A, alpha, n'est le cas pour aucun bêta. Et au contraire, sur bêta gamma, vous avez un petit pi, très reconnaissable, celui-là, pour une fois, et c'est une abréviation de panti. Donc, la quantité est notée de cette façon-là. Et évidemment, la conclusion, si on est lancé la rente, A n'est le cas pour aucun B, B est le cas pour tout C, donc A n'est le cas pour aucun C. On retrouve donc notre Houdini dans l'arc, le cercle du bas qui représente la conclusion. Une remarque qu'on peut faire aussi, c'est que à la différence des figures qu'à mon avis le texte d'Aristote présuppose, l'auteur des annotations a ajouté des exemples. C'est les trois choses qu'on devine au-dessus. À gauche, au-dessus de alpha, c'est une abréviation de apsukon, alpha psi ki. La croix latine, c'est un psi. Et la croix grecque, la croix de Saint-André, c'est un ki, bien sûr. Apsukon inanimé. Au milieu, au-dessus de bêta, on a l'abréviation classique de zoon. Et à droite, au-dessus de gamma, on a l'abréviation classique de anthropos. C'est intéressant parce que ça nous montre que c'est des choses qui ont été composées dans un but en partie pédagogique, des notes qui ont été proposées. Et elles ont certainement une bonne longévité, parce que ça, c'est quand même un manuscrit du XIe siècle, et on retrouve à peu près les mêmes formules, plus claires, et avec presque toujours les mêmes exemples, dans l'édition des Juntes de Venise, dont je vous ai donné la référence dans la première partie de la bibliographie, Aristotelis opera cum Averroïs Cordubensis commentariis, célèbre édition, je ne sais pas combien de volumes, qui a été reproduite en facsimilé, qui est dans toutes les bonnes bibliothèques.
Oui. Vous savez d'où viennent ces manuscrits? Quelle est l'histoire de ces manuscrits?
Non. Ça, j'aurais vraiment. Enfin, je m'y suis pris trop tard, pour être exact. J'ai commencé à chercher ça quand j'ai fait le handout il y a un peu plus d'une semaine. J'étais déjà très content de trouver des illustrations. Et je ne sais pas. Parce qu'effectivement, ce serait intéressant de savoir si le traducteur Giovanni Francesco Burana, qui a fait la traduction des premiers analytiques dans cette édition du XVIe siècle, avait pu travailler sur ce manuscrit ou sur un de ses descendants. L'abbé Wartel, dans son catalogue raisonné des manuscrits d'Aristote et de ses commentateurs, dit, mais sans l'expliquer ni le justifier, que les glosses dans la marge proviennent de Philopon. C'est intéressant parce que le commentaire de Philopon est effectivement un commentaire qui a l'air assez sensible, à la différence de celui d'Alexandre d'Aphrodise, assez sensible à cette question de la production de figures. Il en reproduit quelques-uns, et surtout Valise, dans Maximilian Valise, qui a fait l'édition de Philopon dans les commentaria in Aristotelem Graeca, dit dans sa préface que dans les manuscrits qu'il a utilisés, il y avait des figures, mais qu'il ne les a pas reproduites parce qu'elles ne sont pas d'accord entre elles d'une version à l'autre. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Dans ma recherche, j'ai remarqué aussi, parce que j'ai été chercher sur le Parisius Arabus de 1346, l'organon arabe, je crois que c'est le seul organon arabe complet, en tout cas c'est celui qu'on édite généralement, et il y a des graphes, quelque chose qui ressemble à la présentation graphique, qui sont d'une toute autre nature, qui ressemblerait plutôt à ce qu'on trouve dans la Vénice parfois, c'est-à-dire des traits à angle droit. J'ai pas pris le temps, je suis pas assez bon en arabe, et les photos du manuscrit sont terribles parce que c'est un papier presque transparent, on bénéficie toujours du verso de la feuille en même temps que du recto. Ça vaudrait le coup de mettre un bon étudiant qui fasse à la fois de la paléographie, qui sache l'arabe, le latin, la paléographie latine, le grec, et qui essaie de remonter aussi loin qu'on peut dans cette histoire de la figuration. L'impression que j'ai, c'est que les figures sont en marge, je dirais presque dans les deux sens propres et figurés de l'expression. C'est-à-dire que la tradition tardo-antique, telle qu'elle est représentée par nos plus anciens manuscrits médiévaux, semble considérer quand même que c'est de l'arrière-cuisine, que c'est du bricolage, et que... Alors, je ne sais pas s'il faut rattacher ça à une espèce de préjugé néoplatonicien contre le sensible, font un peu la lecture, à nouveau, de la fin de République VI. C'est-à-dire, on trace des figures, mais on sait bien que ce n'est pas de ça qu'on parle, en réalité. Ou alors, s'il faut le rattacher à une espèce de vénération du texte d'Aristote. Et finalement, l'auteur qui est le plus disposé à parler de figures, c'est Aristote lui-même. Et les commentateurs sont déjà un peu plus distants. Ce qui fait que je ne sais pas exactement comment on peut reconstituer ça. Mais évidemment, ce serait intéressant. Par exemple, je n'ai pas vu les manuscrits vénitiens de l'Organum, tout simplement parce qu'on ne peut pas les avoir sur Internet. Mais ça se trouve, ils ont des illustrations intéressantes. Et encore une fois, ce texte de l'Organum arabe contient quelque chose, et qui en plus n'est pas la même chose, qui a l'air organisé suivant un principe différent. Peut-être qu'après, on retrouverait... Le modèle, j'en sais rien.
Oui, en fait, c'était une question que je vous poserai peut-être à la fin, parce que ça se rattache directement à ce point-là, mais à la fin.
Voilà, là, de toute façon, je n'en sais pas plus. Alors, je voudrais parler de la dernière chose, une chose qui m'intéresse personnellement beaucoup, et je crois que c'est là. Là, il y a vraiment des... Je serai l'heure quand même. On approche quand même de la fin. C'est le début du livre 2 des premiers analytiques. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui est mal aimé, même dans les commentateurs anciens. D'Alexandre Aphrodise, on n'a pas le livre 2 non plus. Il inaugure au fond la tradition. Et même Philippon va beaucoup plus vite sur le livre 2 que sur le livre 1. Or, le livre 2 contient des choses qui, à mon avis, très exactement du point de vue de ce séminaire, sont extrêmement intéressants. Comme je le disais, le livre 2 ne contient à peu près aucune marque architecturale. Il ne dit pas « voilà ce qu'il faut faire, dans un premier temps j'ai fait ça, maintenant il ne devrait pas faire ça ». Il y a seulement cette transition entre 22 et 23 qui inaugure les 5 derniers chapitres. On voit effectivement que les 5 derniers chapitres parlent tout à fait autre chose. Ça, c'est pas un problème. Et entre deux, il n'y a rien. Mon unique prédécesseur récent, qui est Robin Smith, dit que c'est un ensemble de notes. Il dit lui-même, d'ailleurs, que c'est pas très satisfaisant comme façon de rendre compte de la structure du livre. En même temps, ça n'est pas non plus complètement implausible. Ça s'observe dans beaucoup de traités d'Aristote. Les commencements sont très bien structurés, très architectoniques, et la fin prend souvent l'aspect d'une série de notes détachées. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur indice du fait que les œuvres d'Aristote correspondaient à un enseignement, parce qu'on a tous fait nos cours comme ça. On commence avec un beau programme bien vaste, puis en fin d'année, on n'a pas le temps, on n'a pas non plus toujours été capable de soi-même, de remplir intellectuellement le programme. En même temps, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser perdre, mais c'est frappant. Je veux dire, on pourrait le montrer pour le De Anima, on pourrait le montrer pour un très grand nombre de textes. Alors, malgré tout, je vais essayer d'écrire quand même ce qu'il y a dans au moins les 15 premiers, puis peut-être un peu plus loin. Le tout premier chapitre est assez simple. Il montre comment on peut obtenir des conclusions additionnelles en plus de celles qui ont déjà été définies. Et ces conclusions additionnelles sont soit des conclusions qui sont obtenues en remplaçant un terme universel qui fait l'objet d'une prédication universelle par un terme particulier. Et alors, soit dans la conclusion, soit dans une des prémices, et on peut ainsi obtenir des pseudo-figures complémentaires, et de même, on peut obtenir des figures complémentaires en convertissant les conclusions. La quatrième figure, la prétendue quatrième figure qu'Aristote ne considère pas, un certain nombre de résultats de cette quatrième figure sont dans ce chapitre initial. Alors 2 à 4, ça répond de façon tout à fait pesante et détaillée à la question « qu'est-ce qui se passe si on prend des prémices fausses ? Est-ce qu'on peut avoir une conclusion vraie avec des prémices fausses ?» Pour ce résultat qui paraît banal à tout usager de la logique et du calcul des propositions, Aristote a besoin de 3 chapitres extraordinairement compliqués. Dans ma traduction, l'éditeur ne m'a pas laissé assez de place pour tout expliquer. Je recommande ce que David Ross a fait dans sa grande édition des analytiques premier et second. Tout y est. Ce qui est remarquable, c'est qu'il trouve quand même quelques cas, je ne sais plus, ça doit être la première figure, ça doit être au niveau de Cellarent, peut-être déjà de Barbara, que des prémices fausses donnent effectivement une conclusion fausse. Et partout ailleurs, évidemment, des prémices fausses peuvent donner une conclusion vraie. Ce résultat... Oui, non, mais je vais le dire dans une minute. Alors ensuite, à partir de 5, on a 5, 6, 7, où Aristote étudie ce qu'il appelle les déductions en cercle, qu'il ne faut pas confondre avec un raisonnement circulaire. Il ne s'agit pas du tout de la pétition de principe, qui sera analysée beaucoup plus loin, je ne sais plus quel chapitre, sensiblement plus loin, dans la suite, et sous son nom. Il s'agit plutôt de déduire tour à tour. C'est-à-dire, Aristote se demande, si je prends cette fois la conclusion et une prémisse pour essayer de démontrer l'autre prémisse. Et puis je continue à tourner comme ça. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux le faire dans toutes les figures ? Est-ce que je peux le faire dans tous les modes de toutes les figures ? Ensuite, les chapitres 8, 9 et 10 étudient quelque chose qu'il appelle le renversement. Le renversement consiste à remplacer la conclusion par sa contraire ou sa contradictoire, à prendre l'une des deux prémices et à réfuter l'autre prémisse. Vous voyez la parenté avec le modèle précédent. Dans le modèle précédent, je gardais la conclusion et une prémisse. J'essayais de démontrer l'autre prémisse. Là, je prends une prémisse et la négation de la conclusion et j'essaie en fait de démontrer la négation de l'autre prémisse. Et enfin, chapitre 11 à 14, la réduction à l'impossible, dans laquelle cette fois j'introduis une prémisse supplémentaire, considérée par moi et par mon interlocuteur, mon répondant, comme incontestablement vraie. Et à partir de cette prémisse et d'une des deux prémisses initiales, à partir de cette prémisse et de la négation de la conclusion à laquelle je veux arriver, je démontre la contradictoire de l'autre prémisse. Et à partir de là, j'ai donc établi, par réduction à l'impossible, la conclusion à laquelle je veux arriver. Alors, ces trois exercices, pourrait-on dire, sont faits tous les trois suivant exactement le même plan, on examine dans chacune des figures, si c'est possible, à quelles conditions c'est possible, etc. On a vraiment l'impression ici d'un travail effectivement de type combinatoire a priori. On ne sait pas bien à quoi ça va servir. Alors les questions que je me pose, c'est d'une part, pourquoi c'est justement ces trois-là et pas d'autres ? Peut-être, mais il n'y en a peut-être pas d'autres possibles, je ne sais pas. La seule unité que j'ai pu leur trouver, une espèce de continuité. On passe de la déduction en cercle au renversement en passant de la conclusion à la contradictoire de la conclusion Et on passe enfin à la réduction à l'impossible en introduisant une prémisse supplémentaire. On pourrait imaginer que le but est de valider la réduction à l'impossible. Il y a plusieurs indices dans le cours du livre 1 qui donnent l'impression que la réduction, la preuve par l'absurde, disons, la preuve par réduction à l'impossible, est quelque chose qui préoccupe beaucoup Aristote. Il aimerait bien en rendre raison et il voit que ça ne rentre pas tout à fait dans son modèle. Mais j'avoue que là, je suis entièrement dans le doute. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est le caractère parfaitement construit, méthodique, systématique de ces procédés. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'était plus intéressant de vous donner la parole. Le peu que j'ai écrit, aussi bien dans l'exemplier, se retrouve dans ma tradition et dans les commentaires, et c'est peut-être à ça que je peux vous inviter. Enfin, j'ai l'air de faire la promotion aujourd'hui, mais c'est peut-être plus intéressant maintenant de vous donner la parole et de discuter enfin un peu. Il me reste quelques minutes. Est-ce que ça va comme ça ?
Oui, ça va. Merci beaucoup.